et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast L'école des femmes, le podcast. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir mon amie et ancienne collègue Laurence Legendre. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, je suis vraiment particulièrement ravie d'avoir Laurence avec nous aujourd'hui parce que Laurence, tu es, je crois, l'incarnation de la femme -S. Alors, cette femme unique aux multiples facettes, je vais dire deux, trois mots et puis après, tu vas nous dire aussi qui tu es et puis surtout comment tu perçois, toi, ce terme que j'ai proposé à la fois dans mon ouvrage, dans mon livre femme -S, libre, la liberté de vivre toutes ses facettes. Voilà, ça m'intéresse qu'on ait une discussion ensemble et je suis sûre que ça intéressera les femmes qui nous écoutent, de savoir comment toi tu conceptualises cette idée d'être une femme et de pouvoir s'exprimer sur toutes ces dimensions. Alors, je dis deux, trois mots pour te présenter. Donc, tu es Laurence Legendre, tu es une femme d'une quarantaine d'années, tu as deux grands ados à la maison, une fille et un garçon, tu es mariée, tu vis en région parisienne. Tu es ingénieure de formation et ingénieure de métier. Tu as travaillé dans plusieurs entreprises, mais nous, on s'est connus au sein de cette belle maison qu'est la SNCF. On était toutes les deux coach interne et on travaillait à l'époque sur la question du multipotentiel, du haut potentiel. Tu es toi-même au potentiel intellectuel détecté, hein, tu as passé ce fameux test, la VICE pour les adultes, qui a permis de déterminer ton quotient intellectuel, le fameux QI, et donc tu es membre adhérente d'une association, d'une grande association internationale dont j'ai fait partie aussi, qui s'appelle Mensa. Donc il y a Mensa France et puis il y a Mensa International, puisque c'est une association qui est dans tous les pays. Et donc nous, on s'est rencontrés, on était toutes les deux coachs internes. Tu commençais à travailler sur cette question-là aussi au sein de l'entreprise. Tu m'avais invitée, j'avais été ravie de commencer à travailler avec toi là-dessus. Et depuis, tu as lancé une communauté incroyable sur la diversité cognitive, douant ses hébritudes au sein de cette entreprise. Donc tu auras peut-être l'occasion de nous en parler dans les prochaines minutes. Alors, je continue parce que, à côté de ça, donc, je l'ai dit, tu es coach interne, tu accompagnes des managers et des équipes dans leur transformation. Je crois qu'en ce moment, tu es particulièrement active sur les questions de prévention des risques psychosociaux. Tu es consultante Lean Management. Alors, voilà un gros mot que tu nous expliqueras tout à l'heure. Et puis tu as été ambassadrice de SNCF au féminin, qui est devenue SNCF Mixité, pour promouvoir en fait la place d'abord des femmes. C'était son objet au départ. Moi, j'ai aussi grandement participé à cette belle institution au sein de la SNCF. Et puis, c'est devenu SNCF Mixité de manière vraiment à promouvoir la place de chacun au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je crois que tu fais partie du comité de pilotage. Voilà. Alors, à côté de ça, pour être une femme -S tout à fait complète, tu as aussi créé une association, Envol et Vous, qui accompagne les personnes, je crois, dans leur orientation professionnelle, scolaire et professionnelle, parce que je crois que tu accompagnes aussi des adolescents. Et puis, tu es musicienne, tu fais de l'alto. Là aussi, j'ai eu le plaisir de te rejoindre un petit peu, il y a quelques temps, dans un joli orchestre à Versailles, au lycée Hoche de Versailles, et d'amener mon violon à quelques séances. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir refaire ça peut-être sous d'autres formes ou sous cette forme-là, peut-être l'année prochaine. Je sais qu'on en parle ensemble. Voilà. est-ce que j'ai bien reflété ce que je sais de toi et puis ce que tu m'as dit aussi, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou de corriger quelque chose dans ce que je viens de dire?
Non, c'est parfait, Ida. Effectivement, le comité de pilotage, ma participation au comité de pilotage pour SNCF Mixité, donc on promeut l'égalité homme-femme dans l'entreprise, je suis au niveau de TGV Intercité, pas au niveau national.
Mais... Ouais, très bien. Alors, c'est quoi le Lean Management?
C'est quoi le Lean Management?
Quand même, on veut savoir.
C'est réduire les gaspillages. Réduire les gaspillages pour améliorer l'efficacité de chacun et la qualité de vie au travail.
Ok, donc ce n'est pas que de la production.
Ah, pas du tout. Pas du tout, non. C'est avant tout éliminer des gaspillages, augmenter la sécurité. C'est, enfin, nous, tel qu'on le prend dans l'entreprise, on est pour augmenter la qualité de vie au travail et augmenter l'efficacité.
Ok, super intéressant, parce que c'est vrai que moi, j'avais une vision très ingénierie productive, chaîne de production, avec voilà, le fait, en effet, d'éviter les gaspillages et d'être le plus rentable possible, que les KPI soient les meilleurs possibles. Je n'avais pas trop la dimension humaine dans le lean management, et je trouve ça super intéressant, du coup, que tu nous proposes cette définition avec cette ouverture-là. Donc, c'est aussi la sécurité, la santé au travail. Sous tous ces angles. Et c'est vrai que ça rejoint bien ton parcours, parce que finalement, tu as commencé par être ingénieur et tu t'es formé petit à petit à toutes les dimensions humaines. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as vraiment réussi à rassembler toutes ces facettes qui parfois peuvent paraître paradoxales pour certains, non ?
Oui, ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est tout à fait. Enfin, pour moi, c'est complètement cohérent. Parce qu'il m'anime, ce qui m'anime, moi, c'est d'accompagner les humains dans toutes leurs dimensions, donc dans toutes leurs facettes. Et ça se fait, enfin, la créativité en fait partie, la qualité de vie au travail en fait partie, et éliminer les gaspillages, les irritants, ça en fait partie aussi, puisque ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc,
Alors, j'ai parlé en effet de toutes ces dimensions, il y en aurait bien d'autres hein, à dire, mais je pense que déjà pour celles qui nous écoutent, ça fait un florilège quand même de choses sur lesquelles tu te développes et tu t'exprimes aujourd'hui. Il y a deux questions qui me viennent. D'abord, c'est est-ce que dans toutes ces différentes facettes, tu as identifié un fil rouge, quelque chose, un point de rencontre en fait de toutes ces facettes? Ça, c'est la première question qui me vient. Et puis la deuxième question qui me vient, c'est en parallèle avec ma proposition sur les femmes-S, les femmes uniques aux multiples facettes, comment toi ça résonne, ce terme, pour toi et puis dans ton quotidien?
Alors, sur la première question, ce qui fait fil rouge pour moi, c'est l'humain, l'accompagnement de l'humain, être soi. Donc en fait, être soi dans toutes ses facettes, ça revêt toutes les dimensions, se connaître déjà, se connaître et pouvoir exprimer tous ses talents, quels qu'ils soient. Donc moi, ce qui m'intéresse quand j'accompagne quelqu'un en coaching ou quand j'accompagne des équipes sur le terrain, c'est déjà voir comment elles se situent, elles, comment elles se connaissent, comment elles peuvent créer des complémentarités. Ou comment elles peuvent développer, quand c'est de l'individuel, comment elles peuvent développer des facettes qu'elles n'ont pas et qui leur tiennent à cœur. Et aussi faire le lien entre le pro, le perso. Par exemple, quand j'utilise de la créativité dans du coaching, on peut croire que ça fait un peu... c'est un peu bizarre parfois pour certaines personnes de faire un dessin ou de faire des choses comme ça, mais en fait, ça libère, c'est libérateur.
Ouais, intéressant. Donc, le fil rouge, c'est l'humain, le fonctionnement humain, le fait de se connaître, le fait de pouvoir justement exprimer toutes ces dimensions. Ça, c'est OK. OK. Et cette notion, alors, de femme-S, comment ça résonne pour toi?
Pour moi, c'est femme aux multiples facettes.
Il y en a une qui est en train de s'exprimer au moment où on se parle. C'est la facette maman, c'est la facette je suis ado, je suis là. Et ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on est. Et c'est exactement ce que je... Tu sais, c'est vraiment beau parce que moi, de plus en plus, et je crois que le confinement nous a beaucoup permis finalement cette nouvelle autorisation qui est d'introduire finalement notre vie telle qu'elle est, quoi, plutôt que d'essayer de cacher, voilà, elle est là. Moi, il m'est arrivé plein de fois en séance de coaching d'avoir ma petite dernière toute bouclée qui présente sa tête ici, là, avec tous ses petits cheveux du haut de ses 4 ans. Et en fait, je crois que c'est ça aussi la possibilité d'être une femme-S, c'est que, oui, ça fait partie de la vie, un ado qui rentre dans un bureau et un enfant qui est là. Et dans l'école des femmes inspirantes, C'est une remarque que je me suis faite lundi soir, parce que lundi soir, j'ai deux jeunes mamans, en fait, qui sont rentrées dans le groupe tout récemment. Une dont le petit bébé a 6 mois. Et l'autre dont le petit bébé a 5... pardon, l'une c'est 6 mois, oui c'est ça, et l'autre 6 semaines. Et donc, il y avait celle qui est maman de 6 semaines qui avait son bébé au sein, et celle qui a le bébé de 6 mois, bah, il dormait ou alors il se réveillait, puisque bon, voilà, il n'a pas encore tout à fait son rythme. Et en fait, j'ai repensé à un truc, excusez-moi, je fais distorsion, mais je pense que c'est en lien avec ce qu'on est en train de dire sur les femmes qui restent, donc je le dis. Mais ça me fait penser à la vision que j'avais eue, et ça rejoint ce que tu disais sur la créativité, sur le dessin, sur la possibilité d'aller utiliser des outils de visualisation pour créer ensuite du concret et quelque chose qui existe. Donc moi, en l'occurrence, je suis en train de vous parler de l'école des femmes inspirantes, c'est cette école que j'ai créée pour accompagner les femmes dans leurs projets de vie pro et perso. Et en fait, la première vision que j'avais eue, c'était une vision d'un cercle de femmes avec leur bébé en bas âge et qui prenaient ce temps pour réfléchir à leur projet et vivre toutes leurs facettes. Et en fait, je les voyais en cercle avec leur bébé dans les bras. Et j'avais eu les larmes qui m'étaient montées aux yeux. D'ailleurs, tu vois, en le redisant, ça m'émeut à nouveau. Parce que je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pouvoir être cette femme dans toutes ses dimensions, la mère, la professionnelle, là en l'occurrence ces deux femmes, celle dont le bébé a 6 mois, elle est en train de passer des concours pour devenir professeure au lycée, elle est juriste et en fait elle opère cette reconversion professionnelle, l'autre est chef d'entreprise à un magnifique magasin à la Madeleine de vêtements de luxe pour hommes, et donc elle a son bébé de 6 mois, donc elle continue aussi à travailler, je dis c'est ça, toutes les facettes, c'est ben, je peux être là en train d'être dans un cercle de femmes en train de discuter, je peux être en train de tourner un podcast et avoir mon ado qui vient me demander les écouteurs et c'est OK, quoi. Voilà. Donc, merci Laurence pour cette...
voilà, je suis sur la réalité.
Exactement. Et donc, du coup, ben, je te laisse la parole, femme Thérèse, pour toi.
Alors, femme Thérèse, pour moi, c'est pouvoir... Enfin, se donner la liberté et l'autorisation d'explorer ses facettes et de les vivre aussi. De se poser les questions de ses propres besoins, d'aller au-delà parfois des courants de pensée qu'on peut nous imposer. Et vraiment se poser les questions et s'autoriser. Pour moi, c'est ça, les femmes.
La question de l'autorisation, tu voudrais aller un petit peu plus loin là-dessus, parce que je trouve ça tellement important, cette question-là. Je trouve qu'on ne nous en a tellement pas parlé. Bon, maintenant, c'est quelque chose que j'entends plus, parce que bah, je pense que c'est une notion vers laquelle je me suis rapprochée petit à petit ces dernières années. Et je trouve ça tellement important. Si tu voulais en dire deux mots aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais sur l'autorisation ?
Alors... Pour moi, c'est prendre conscience des schémas de pensée qu'on nous a un peu inculqués. Une femme, elle doit faire ça. Elle doit s'occuper de ses enfants, avant tout. Ça doit être la priorité. Elle doit leur faire bien à manger. Elle doit avoir des enfants qui sont parfaitement bien habillés, coiffés, qui doivent avoir des bons résultats à l'école. Qui doivent. C'est tout ce qui est autour de l'image, en fait, pour moi. Tout ce qui est autour de l'image. L'image un peu de la famille d'Épinal, en fait, le portrait de la belle image avec le...
Il y a une pub comme ça, non?
C'est ça. Le monospace, le chien, voilà, les 3 ou 4 petites têtes blondes qui sont parfaitement bien élevées, polies, etc. Donc, je crois qu'on nous inculque beaucoup ça quand on est jeune. Et puis, moi, j'aimais beaucoup cette image aussi. Je croyais un peu au conte de fées, au prince charmant, à la jolie famille. La vie nous rappelle parfois à la vérité et que ce n'est pas forcément ça dont on a besoin, dont chacun a besoin. Moi, je me suis rendu compte que j'avais... Il y avait des choses qui me demandaient beaucoup trop d'énergie par rapport aux résultats. Après, et c'était pas si grave si mon enfant, je le déposais à la crèche et qu'il n'était pas parfaitement parfaitement bien habillée, avec le nez qui coule pas, parce que les enfants ont toujours le nez qui coule, tout ça. Donc, quand je le récupérais, il était parfait, hein, il me le rendait parfait. Parfait, mais quand je déposais, voilà, ça c'est une première autorisation de ne pas avoir l'enfant parfait. Je me suis perdue.
Dans toutes les autorisations, j'imagine que pour faire tout ce que tu fais aujourd'hui, il y a eu un moment où tu. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es posé des questions et que tu t'es autorisée, ou est-ce que finalement tu t'es jamais posé de questions et puis c'est à la fin, tu vois, c'est a posteriori que tu peux regarder et dire ah oui, je fais tout ça en effet. Bon, voilà. Est-ce que c'est passé par un processus d'autorisation ou pas?
Oui, c'est passé par un processus d'autorisation à se dire est-ce que ça me convient? Est-ce que ça, c'est une croyance? Est-ce que je pense vraiment que si mon enfant. Et bien coiffé, enfin, je reprends toujours cet exemple-là qui est un peu bête, mais est-ce qu'il sera plus heureux, plus autonome dans la vie? Qu'est-ce que moi je veux? Et sur quoi je suis prêt à passer qui me nécessite trop d'énergie par rapport au résultat qui est escompté? On en revient encore à la notion de lean management et de gaspillage, en fait. Tu vois, je fais lien avec ça, avec l'énergie qu'on peut y consacrer. Et alors, dans le lead management, c'est la vision client. Est-ce que mon client a besoin de ça? Et là, c'est pareil, en fait. C'est est-ce que moi, j'ai vraiment besoin, envie de ça? Ou est-ce que c'est une image qu'on m'a inculquée et que, pour moi, c'est pas ce que je veux?
Ça me paraît fondamental, cette question-là. Est-ce que moi j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est l'image que ça reflète? Est-ce que c'est le statut? Est-ce que c'est ce qu'on me dit de faire? Est-ce que j'ai fondamentalement besoin de ça? Ça me paraît vraiment, vraiment très très important.
Et dans notre société où le statut est très très important, surtout quand on a fait des études d'ingénieur par exemple, c'est bien d'être arrivé à un certain statut. Dans l'entreprise au bout d'un certain nombre d'années. Dans notre société qui est quand même issue du patriarcat, c'est pareil aussi, il y a des images par rapport à ça et des choses qui sont bien de faire vis-à-vis de la société qui sont à re-questionner. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Et si ça ne me convient pas, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce que je me donne comme autorisation?
Ouais. J'ai l'impression que c'est un mouvement quand même de plus en plus actuel. Alors, est-ce que c'est vrai que bon, moi, je baigne dedans et c'est mon métier. Donc, parfois, quand on est dedans et qu'on fait ça tous les jours parce que c'est sa profession, on a une image un peu déformée. Est-ce que toi aussi tu partages, toi qui navigues aussi dans les organisations, qui côtoies beaucoup de gens de divers environnements, intéressés par le développement personnel pour certains, mais certains pas du tout. Est-ce que tu as l'impression que c'est un mouvement de fond de revenir à ces questions-là sur finalement l'essence, le sens, re-questionner nos processus, ou tu sens que ça résiste encore beaucoup?
Ah non, je pense que c'est vraiment un mouvement de fond. Mais après, j'ai peut-être pas forcément le bon
toi, oui, toi aussi, tu baignes dedans. Toi aussi, tu baignes dedans. Mais tu côtoies quand même aussi beaucoup de gens que tu amènes à ces sujets-là et qui ne sont pas nécessairement sensibles de nature, on va dire, ou en tout cas, pas de nature, mais de connaissances. Et donc, voilà, est-ce que quand tu vas, par exemple, dans les établissements ou avec les collègues, est-ce que tu sens que là aussi, il y a une écoute peut-être différente d'il y a quelques années sur ces sujets-là
Ça, je suis incapable de le dire parce que moi, dans ma posture, j'ai aussi changé. Et j'ai changé aussi ma vision des choses. Forcément, j'ai grandi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, je suis incapable
d'évaluer le changement des conversations ou les intérêts. Oui, parce que c'est vrai qu'on rencontre aussi du coup, les gens qui peuvent être sensibles à là où on en est, au moment où on en est aussi.
Les personnes que je rencontre, que ce soit via via la communauté Douance et Zébritude ou via le coaching, c'est des gens qui sont déjà dans une démarche.
Qui sont donc, sensibles à ça, oui, tout à fait.
Ils sont sensibles à une démarche personnelle, à se poser des questions, etc. Donc, c'est...
Ouais. Alors justement, quand on est dans une grande entreprise comme est la SNCF, alors je ne sais pas si ceux qui nous écoutent travaillent dans des grands groupes, etc. Mais voilà, quand on est dans des grands groupes comme ça, il y a quand même des codes, il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont possibles, mais plus difficiles à mettre en place. Donc, ça m'intéresserait de savoir quand on monte un truc comme Douance et Zébritude, qui donc met en avant la diversité cognitive, etc., dans un groupe comme la SNCF, comment ça se passe et puis voilà, comment on crée le mouvement, quoi. Parce que je pense que ça peut être inspirant pour d'autres qui se disent, oh là là, mais moi je suis une toute petite fourmi dans la fourmilière. Hein. La SNCF, c'est 200 000 personnes au niveau du groupe, mais il y a d'autres personnes qui travaillent peut-être dans des grandes entreprises, Air France, Safran, je ne sais pas, voilà, Bouygues Télécom, etc. Et puis même quand on est dans des endroits plus petits, hein, peut-être des PME, 100, 200 personnes, on peut se dire, bah voilà, moi, je suis une personne au milieu de tout ce monde-là, et pas avoir... ou avoir peur ou se dire bah non, c'est pas la peine, c'est pas moi qui vais changer les choses. Et toi, tu oses créer Douance et Zébritude. Donc,
oui.
Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, quoi?
Alors,
quand on se lance dans un truc comme ça.
Quand on se lance dans un truc comme ça, déjà, il faut avoir envie. Et il faut être motivé, avoir envie de faire connaître la diversité cognitive au plus grand nombre, avoir aussi les outils. Qu'il faut, nous on a un groupe Yammer, enfin on a comment ça s'appelle, un ERG,
un groupe de partage, enfin
ouais, enfin on a les moyens au sein de l'entreprise de créer des groupes Yammer, c'est comme des groupes Facebook mais en interne
de
l'entreprise.
Ok.
Donc il y a les moyens disponibles pour le faire, on peut être en autonomie pour créer, et puis avoir un environnement en fait qui t'aide. Là, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, d'être mentorée par une personne de l'entreprise. Et c'est ensemble qu'on a souhaité lancer cette initiative. De plus, comme c'était un mentorat dans le cadre de SNCF au féminin,
oui.
SNCF Mixité, on avait été soutenus par SNCF Mixité au départ, qui nous a octroyé un petit budget pour faire une conférence. Donc, c'est vrai qu'avec tous ces ingrédients, que ce soit l'envie, la motivation, les outils qui étaient disponibles, qui nous nécessitaient, en fait, ça nécessite aucun investissement, et puis le soutien du groupe, enfin, des soutiens personnels engagés là-dedans, qui y croient, je pense que c'est les trois ingrédients pour oser se lancer.
Ouais. Après, envie, soutien, outil. Et alors, quand tu dis ça nécessite aucun investissement, je pense qu'on pense souvent à l'argent. C'est-à-dire qu'on se dit non, je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas l'argent. Moi, je vois au moins deux autres ressources quand même qu'on a et qui sont disponibles, voilà, tout de suite. C'est le temps. Le temps et l'énergie. Et tu as dit, voilà, déjà, il faut avoir l'envie. Donc, déjà, l'énergie que je vais pouvoir mettre à ce projet, le temps que j'ai envie d'y consacrer, donc ça devient une priorité, en fait. Et puis ensuite, bah, par le soutien, bah, voilà, on s'en rend compte, là, bah, du coup, en parlant, tu tires un fil, SNCF au féminin te donne du budget, te donne du cadre aussi avec certains outils, et c'est parti, quoi.
Alors, le temps, pour moi, le temps, c'est un peu un faux problème, entre guillemets, parce que ça ne nécessite pas forcément beaucoup de temps. Certes, on a fait une présentation pour présenter ça à notre sponsor, SNCF au féminin, mais on l'a faite le soir, le week-end. C'était pas, enfin, à partir du moment où c'est quelque chose qui te donne envie, ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais je faisais aussi partie d'un réseau qui s'appelle le réseau de diversité cognitive au travail, le collectif des réseaux de diversité cognitive au travail, pardon, qui regroupe plusieurs entreprises qui étaient en passe de créer des réseaux comme celui-ci, ou qui avaient déjà créé leur réseau dans leurs entreprises. Donc, il y a des... Il y a des grosses entreprises telles Airbus, Sanofi, Thales, l'Éducation nationale, etc. Orange. Et du coup, il y avait aussi un support. Je savais comment ils avaient fait, on partageait beaucoup d'informations. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était. J'allais pas vers l'inconnu. Le seul inconnu, c'était de savoir comment est-ce que les personnes de SNCF prendraient la chose et est-ce qu'il y aurait des abonnés dans notre groupe Yammer. C'était la seule inconnue. Mais après, c'est pas grave. L'aventure, elle était belle rien qu'en soi de créer cette communauté.
Je crois que tu envoies des messages vraiment importants. J'en relève deux au moins là dans ce que tu viens de dire. C'est cette question sur le temps. C'est-à-dire que le temps n'est pas une question à partir du moment où c'est ce que j'ai envie de faire. Bah, du coup, je suis dans ma vie. Donc, voilà, le temps, il est là et je peux le faire. Du coup, le soir, le week-end, il n'y a plus cette espèce de cloisonnement que, ah, ça, c'est un truc que je fais au sein de la SNCF, donc je le fais avant 18h. Non, c'est
Alors,
plus large que ça. C'est les relations aussi que tu es en train de tisser avec les autres. Et puis le deuxième point que tu as dit là, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver.
c'est le relationnel peut-être, le relationnel avec les autres.
Oui,
Qu'est-ce
la
que tu
relation
penses?
avec les autres. Non, il y avait une autre idée, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Tu voulais dire quelque chose peut-être sur la relation du coup?
Oui, en fait, ouais, alors moi j'ai fait un point d'honneur à justement tout ce qui concerne les douances et les hébritudes, à le faire en dehors de mes heures de travail. Donc ça, c'était important pour moi. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais voilà, c'était important pour moi. Après, une fois, pour la création en elle-même du groupe, ça m'a duré 5 minutes, hein, même pas. En fait, la création, quand je disais qu'il y avait besoin d'avoir, enfin, il y avait déjà les outils nécessaires. La communauté, enfin, le Yammer existe, il est sur nos ordinateurs professionnels. Créer une communauté, ça fait, c'est 3 clics, hein, voilà. Après, comme on avait déjà déterminé l'ambition pour à conserver, etc., voilà, ça va vite. Et après, c'est dans cette communauté, c'est quoi? C'est favoriser la connaissance, ou donc co-naissance ou connaissance, donc savoir de quoi on parle. Donc, c'est un peu un regroupement d'informations sur tout ce qui concerne la diversité cognitive, donc la diversité cognitive, surtout au travail, mais aussi dans toutes les facettes, hein, qu'on soit manager, collaborateur, mais aussi parents d'enfants de la diversité cognitive, ou collègues, ou famille, etc. Donc, favoriser les connaissances, être un centre de savoir, donc qui regroupe plein d'informations toujours, et aussi à terme, l'idée c'est de pouvoir avoir une communauté qui puisse répondre aux enjeux de demain. Donc, un peu avoir un think tank où on puisse solliciter des personnes sur des sujets particuliers. Je pense par exemple à la dernière chose qu'on a faite, c'est la co-création d'un livret pour les Asperger au travail. Donc, en fait, j'ai identifié dans mon job du quotidien un cas de souffrance d'une personne qui était pas en cours de diagnostic Asperger, mais pas complètement, pas encore diagnostiqué Asperger, et pas encore, comment est-ce qu'on peut dire, estampillé au niveau de l'entreprise, parce que Asperger, c'est un trouble où on peut être reconnu comme travailleur handicapé. Dans les entreprises, à partir du moment où on est travailleur handicapé, on a droit à certaines choses, à certains accompagnements. Pour cette personne, ce n'était pas le cas, puisqu'elle n'était pas encore reconnue travailleur handicapé Asperger. Du coup, c'était très difficile dans son entité pour communiquer avec ses collègues, communiquer avec son manager. Et du coup, on a eu l'idée de faire un livret pour essayer, pour que tout le monde se comprenne mieux, pour que les collègues comprennent ce qui se passe quand on est Asperger et comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. En fait, on parle d'intégration, hein, mais d'intégration de toutes les différences, quelque part. Et puis, avec des petits tips. Donc, pour ça, on a fait appel à la communauté Douances et Hébritudes en disant, qui est-ce qui a envie de bosser là-dessus? Et on s'est fait des petits groupes de travail. Ça a duré un peu longtemps, hein, ça a duré un an à peu près. Et on a écrit un livret où il y a des illustrations qui sont faites par la maman d'une personne du groupe pour endurer les Asperger au travail.
C'est formidable. Et j'imagine peut-être qu'il y a d'autres entreprises du coup qui s'intéressent à ce que vous avez fait. Vous avez pu en parler à
pas
l'extérieur.
Encore, on en a pas encore, on l'a pas encore communiqué.
Ouais.
C'est tout récent la finalisation du travail.
Ah, c'est formidable.
Déjà, je l'ai proposé au RH à SNCF. Ah oui, il y avait quelque chose que je voulais ajouter à propos de ça. Donc, on l'a proposé au RH à SNCF pour voir si ça peut être diffusé au sein de l'entreprise, pas seulement sur notre communauté.
Ouais, c'est ça. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'est que vous travaillez en local, vous faites ce que vous avez à faire sur vos sujets, vous commencez à rayonner du coup sur un cercle qui est autour de votre communauté, et puis ensuite vous faites un pas plus loin qui est de sortir du cercle et d'aller vers l'institution en fait, hein, donc là plutôt la direction des ressources humaines par exemple, et puis plus largement, si ces travaux-là ils peuvent parler aussi en inter-entreprise, notamment dans l'institution aussi dont tu parlais, qui regroupe plusieurs entreprises autour de ces sujets-là, et on voit en fait voilà comment est-ce qu'on agrandit ces cercles d'influence, mais en fait au départ, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on se rend compte avec ton exemple que vous n'étiez pas déjà en train de vous poser la question de « Ah là là, comment est-ce qu'on touche le monde entier ?» hein? Vous étiez déjà en train de faire ce que vous aviez à faire, donc travailler sur le fond, rayonner autour de votre communauté, et puis ensuite, petit à petit, et c'est là, je pense, où tu as parlé, j'ai retrouvé mon idée, sur l'aventure, tu disais. Vivre l'aventure, en fait. Déjà, vivre l'aventure, c'est extraordinaire, c'est ça que tu disais. J'ouvre le groupe Yanner, qu'il y ait 10 000 personnes ou 3 personnes, en fait, c'est pas grave. Toute l'émulation intellectuelle que vous avez eue, les échanges que vous avez eus pour poser les jalons de qu'est-ce que pouvait être devant ces zébritudes, les réflexions que vous avez eues sûrement sur ce sujet autour des Asperger dans le travail, etc. Bah, juste ça, déjà, en soi, c'est là, quoi. C'est génial, quoi. Et après, bah, y a l'influence que ça amène. Et du coup, de fait, il y a de l'influence puisque voilà, l'énergie, elle est là, en fait.
Ouais, ce que je voulais ajouter, l'idée que j'avais, c'est, et puis c'est un peu un conseil aussi, on a osé se lancer sans avoir l'accord de l'institution.
Ça, c'est très important.
Donc, c'est une initiative individuelle, c'est une initiative personnelle. C'est aussi pour ça que moi, je ne m'autorisais pas à traiter ce sujet dans mes heures de travail. C'est vraiment quelque chose d'annexe, mais oui, au service quand même de l'entreprise.
C'est ça. C'est ça, tu l'as dit tout à l'heure. Tu t'as dit, voilà, on est dans comment est-ce qu'on contribue à l'évolution de l'entreprise, à ce que l'entreprise a à faire, etc. Tu l'as dit tout à l'heure dans vos trois ambitions.
Parce que pour moi, s'intéresser à la diversité cognitive, c'est un levier de performance, avant tout. Les personnes se connaissent mieux, elles vont être plus engagées. Il y aura moins, enfin après, je ne vais pas faire la démonstration au niveau RSE, hein, mais il y a moins d'arrêt de travail, moins de démotivation, plus d'engagement. Et puis, on peut aussi attirer des talents. Voilà. Enfin, c'est très...
Est-ce que pour conclure sur ce sujet-là, et qui va être en lien d'ailleurs avec le thème que j'aimerais ouvrir juste après, est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est la diversité cognitive? Parce que du coup, là, on en parle, on n'a pas nécessairement défini. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que la diversité cognitive pour nos auditrices?
La diversité cognitive, c'est une différence cognitive qui est invisible, mais qui a des impacts au niveau, comportement. C'est prouvé. Ça regroupe plusieurs aspects, plusieurs troubles et plusieurs choses qui ne sont pas des troubles. Donc, dans les troubles, il y a tout ce qui est les troubles 10, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie.
Dyslexie, on a dit dyslexie aussi. Oui, dyslexie.
Dysorthographie, plusieurs. Tout ce qui est trouble du spectre autistique, donc Asperger, j'en oublie dans les troubles, je crois. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH.
Ouais.
Et après, hors trouble, on a le haut potentiel intellectuel et l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, dans la définition d'Hélène Aron ou Saverio Tomasella, ça regroupe à peu près 20 à 30% de la population. Donc, c'est énorme, en fait. On dit que la diversité cognitive touche entre un tiers, enfin un quart et un cinquième de la population.
Oui, d'accord. Donc d'où l'importance, en effet, de s'en préoccuper, puisque ça concerne énormément, finalement, de personnes au sein de l'entreprise.
Et énormément de personnes aussi qui s'ignorent.
Ouais. Dans une équipe, t'as facilement une à deux personnes, en fait, qui font partie de ces différentes caractéristiques. Ouais. Tout
Donc
à fait.
Là, on parle des personnes qui sont directement impliquées dans cette diversité, mais il y a toutes les personnes qui sont autour, à savoir que si c'est un manager, toute l'équipe est concernée, du coup, par le fonctionnement particulier de ce manager.
Ouais, tout à
un
fait.
Collaborateur, c'est pareil. Toute l'équipe va être concernée. Et puis, les collaborateurs peuvent aussi être parents d'enfants qui sont concernés.
Ouais.
Donc, au final, il y a tellement de personnes qui peuvent être concernées.
C'est ça.
Ça vaut le coup d'en parler.
Et comme tu le soulignes, qui s'ignore, j'aime bien cette idée, vous avez dit connaissance. Moi, je parle de la reconnaissance. Donc, c'est voilà, comment je me connais et comment je peux avoir un retour sur moi. Et là, dans la notion de communauté, le fait que vous ayez appelé ça connaissance, donc il y a le savoir que tu as cité, mais il y a aussi naître ensemble.
C'est ça.
Je trouve ça très joli parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là qui est quand même plutôt nouvelle, même si on en parle beaucoup aujourd'hui. Là, c'est de plus en plus médiatisé, mais ça reste quand même très nouveau. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se découvrent complètement dans ces dimensions.
Oui.
Et c'est un choc, hein, pour beaucoup. Moi qui accompagne les hauts potentiels, hein, je fais les bilans, hein, pour les hauts potentiels, donc des personnes qui vont avoir. Je fais beaucoup les adultes, je fais aussi ados et enfants, mais ma spécialité, c'est quand même vraiment beaucoup plus les adultes. Et donc, c'est des personnes qui vont se découvrir à 40, 45. Là, dernièrement, une femme 59 ans, 142 de QI. Bon, voilà, il y a toute la vie, hein, tout le déroulement de sa vie jusque-là, hein, jusqu'à 59 ans et jusqu'à découvrir. Alors, pas « là, je suis super intelligente hein, », c'est pas ça du tout la question. Hein. La question, c'est « ah, j'ai ce mode de fonctionnement-là et ça fait 59 ans que je ne le sais pas, que j'ai cru que j'avais un problème, que j'ai même cru peut-être que j'étais pas intelligente, pas la bonne place, pas comme ci, pas comme ça. » Ça, voilà, c'est vraiment cette question, oui, de… Naître, être, il y a aussi être, hein, le verbe être, hein, tout simplement, dans cette notion-là, et renaître, oui, à soi, en fait. C'est quelque chose de très important. Voilà, très, très profond et intense, hein, ce qu'on est en train de dire pour les personnes qui le vivent. Tu as dit quelque chose, tu as dit on a fait sans demander. Alors, c'est le deuxième grand thème de ce podcast dans les interviews que je fais, c'est la question de la liberté. Alors, la liberté pour les femmes, mais du coup, la liberté que tu as prise là, que vous avez prise là en collectif, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la question de la liberté pour les femmes, peut-être pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vaste question.
Oui, c'est bientôt le bac philo. Je ne sais pas, dans les réformes, là, non, ils n'ont pas encore passé le bac philo.
Non,
là.
Ils n'ont pas encore passé, c'est bientôt.
Ça arrive, voilà. Donc, vous avez 2 heures, Madame Legendre.
Ouh là là, et puis la philo, ce n'était pas ma
matière. 4 heures, on avait 4 heures. 4 heures, vous avez 4 heures, Madame Legendre.
Alors, la liberté, pour moi, je ramène ça encore à l'autorisation qu'on se donne. C'est voir et se donner les autorisations d'aller là où spontanément on ne nous attend pas forcément. Dans le sens où, bah oui, j'ai une facette que je ne développe pas, que j'ai pas, que j'ai pas, où je suis pas nourrie. Par exemple, la facette de la créativité ou de la musique, dans mon cas. Qu'est-ce que je me donne comme liberté et comme autorisation pour rogner sur mon temps, sur d'autres choses, pour nourrir cette facette-là.
Comment tu fais d'ailleurs au quotidien?
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, bien sûr. Mais d'ailleurs, voilà, concrètement, comment tu fais au quotidien pour faire tout ça? Je pense que c'est aussi une question très concrète, très pragmatique. Moi, je sais que les objections souvent que je reçois de la part des femmes qui que je vois, c'est bah, moi, je ne peux pas, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a toujours quelque chose qui passe avant, tu vois. Et on a l'impression que toi, mais je me reconnais aussi là-dedans, il y a, voilà, il n'y a pas de problématique de quelque chose qui passe avant. Tout est faisable, en fait, dans ce temps qui nous est imparti, dans ce réceptacle de minutes, de secondes qui nous est imparti. Donc, comment tu fais concrètement? Ça
Alors,
marche comment au
moi déjà,
quotidien?
mes enfants, c'est des ados.
Ouais.
Ça change beaucoup. Ils sont autonomes, ils font beaucoup de choses et ils ont aussi besoin de leur tranquillité, je dirais. À 14 et 16 ans, on n'a pas besoin d'avoir maman tout le temps. Je m'autorise à pas être parfaite sur les repas, parce que c'est vrai que quand ils étaient plus jeunes, je faisais très très attention à faire des légumes frais, du bio, etc. Bon. Aujourd'hui, je vais laisser parfois mon grand faire des pâtes parce que ben, je le laisse aussi. Enfin, ce sera un adulte responsable et autonome plus tard. Je ne vais pas tout lui mâcher le travail. Donc, il faut aussi qu'il s'entraîne. Mais même la plus jeune, hein, ils ont aussi accès à la cuisine comme moi. Mon mari aussi. Enfin, je suis pas la personne. Seul responsable
Désigné.
désigné d'office,
Désigné volontaire.
c'est ça, pour gérer tout. Alors, moi, j'ai pas de famille hein, qui m'aide au quotidien. Ça a toujours été un gros sujet pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Les enfants font aussi beaucoup d'activités. Donc, ils savent aussi que maman fait aussi des activités. Donc, je fais du théâtre d'impro, je fais de la musique. Et ben, ce sont mes activités. Eux, ils ont leurs activités, le hand, la musique, etc. Voilà, chacun, on a tous nos parts externes. Et il y a aussi une notion de responsabilité quelque part où c'est pas juste moi qui prends la responsabilité pour tous. Il y a un peu un partage des responsabilités. Si je vous donne un exemple, la chambre de mon fils, c'est un bazar. J'ai passé des années à lui crier dessus pour qu'il range sa chambre, etc. Aujourd'hui, j'ai abandonné parce que je me suis dit, c'est pas cette relation que je veux avec mon fils. Dès que je lui parlais, c'était pour lui dire de ranger sa chambre. Aujourd'hui, il est en terminale. S'il ne veut pas ranger sa chambre, tant pis pour lui. Moi, je n'y vais pas. Et
C'est
puis,
son espace de vie.
c'est son espace de vie. Et c'est un peu des petits trucs que j'ai trouvés
Et tu fermes la porte.
pour me libérer un peu de cette charge mentale.
C'est marrant ce que tu dis là parce que. Tu vois, je travaille à domicile depuis le confinement et puis depuis que je suis indépendante, ce qui n'a pas été le cas pendant 15 ans où je quittais la maison comme toi à 7h30, 8h et je rentrais à 7h30, 8h. Donc, de toute façon, voilà, je ne voyais pas grand-chose de ce qui se passait à la maison, mais j'ai eu un moment où j'étais très obsessionnelle sur le fait quand même que quand je rentre, je voulais que tout soit parfait. Ça a été vraiment un truc, mais je pense que c'était un symptôme hein, de besoin de contrôle et de besoin de maîtrise en tant que jeune maman et tout ça. Et du coup, il y a des trucs, ça me rendait dingue, quoi. Je voyais une miette, enfin bon, bref, c'était un peu très symptomatique, quoi. Et j'ai lâché prise. Alors, tu as dit abandonner, moi je dis plutôt lâcher prise parce
Ouais,
que
c'est ça, c'est le mot.
c'est une vraie décision et c'est. Et c'est pas dans un renoncement, c'est être totalement OK avec ça. Donc j'aime bien l'idée plutôt de, bon ben voilà, c'est là, ça existe, hein, je fais pas, je sais que ça existe en fait, mais je décide juste de pas m'en emparer en fait.
Oui, c'est ça. Je suis
Et,
complètement d'accord. C'est conscient, en
hein,
fait. C'est une
voilà, c'est
démarche
ça.
consciente.
Et je sais que je fais un truc, par exemple, moi, là où on est dans mon bureau, c'est le dernier étage de ma maison. Donc c'est mon espace de travail dans lequel je suis à peu près 8 à 10 heures par jour. Et donc le reste de la maison, bah, c'est la maison, quoi. C'est, voilà. Et je fais un truc, quand tout le monde est parti à l'école et que voilà, j'ai déposé les plus petits à la maternelle, en primaire, et puis l'autre, la grande, est partie au collège, je remonte en fermant toutes les portes derrière moi. Voilà, je sais qu'il y a du, notamment dans les chambres des enfants, il y a du bazar. Et en fait, voilà, je ferme toutes les portes. Et en fait, pour la journée, ça n'existe pas.
C'est ça.
Et c'est vrai que je pense pour, peut-être pour certaines qui sont indépendantes, qui écoutent et qui travaillent chez elles, ça peut être vraiment le risque, hein. Il y a toujours un lave-vaisselle à débarrasser, une machine à faire, un caleçon à ramasser, des chaussettes sales dans la salle de bain. Et en fait, je pense que voilà, si on travaille à domicile, ça peut vite être un piège. Mais même, quand on rentre du boulot, plutôt que d'être en train d'avoir une conversation sympa avec son mari, de commencer à ramasser tout le bazar. Et en fait, bah voilà, moi, j'ai trouvé ce truc-là, c'est je ferme, ça n'existe pas, et il est hors de question que je fasse une machine ou que je débarrasse un lave-vaisselle pendant ma journée de travail, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est encore une démarche consciente d'autorisation qu'on se donne.
Oui.
Et d'abord de conscientisation et après d'autorisation.
Ouais. Est-ce que ça t'a amené, du coup, dans ton évolution personnelle, à dépasser certaines choses? Est-ce que tu t'es sentie... Voilà, aller au-delà de trucs qui étaient là et qui ont vraiment changé, où tu t'es transformé finalement. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner sur...
Bah, oui, sur la musique en fait. Moi, j'ai arrêté la musique pendant une quinzaine d'années parce que je n'avais pas le temps, parce que dans ma cellule familiale, ce n'était pas le sujet en fait de la musique. Et en fait, je m'y suis remise au bout de 15 ans. Donc j'ai un peu dépassé ce truc de manque d'intérêt pour me dire ben tant pis si au sein de la cellule familiale il n'y a pas d'intérêt pour la musique, moi j'y vais et je vais à l'extérieur, je m'autorise à participer dans des orchestres. Récemment j'ai participé à une comédie musicale caritative qui s'appelle Devi, qui était une expérience extraordinaire. Enfin, extraordinaire, enfin, c'était incroyable. et oui, c'est une réelle transformation en fait, parce que c'est vrai que la musique m'avait, j'allais dire, a bercé mon enfance. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est vrai, puisque j'étais moi au collège en horaires aménagés musicaux, donc voilà, j'étais quand même au conservatoire. Et après, j'ai complètement arrêté. Pendant 15 ans. Et s'y remettre au bout de 15 ans, c'est compliqué parce que le niveau est perdu. La lecture de notes, j'y arrivais quand même un peu, mais il m'a fallu, pas mal de temps et je pense que je n'ai pas récupéré mon niveau parce que je ne prends pas le temps de travailler entre les répétitions. Je le sais, c'est comme ça. Pour autant, dès que je suis en collectif, en orchestre, là, je m'éclate en fait.
T'as ce plaisir infini, ouais.
C'est ça.
Alors, j'ai une dernière question pour toi, et puis vraiment en termes de témoignage, peut-être de message pour les femmes. Bon, le contexte est celui qu'il est depuis 2 ans. On a vécu une expérience collective extraordinaire là aussi. Même si je pense pour ma part qu'il y avait quand même un terreau de difficultés qui était déjà là, et notamment dans les organisations et pour les femmes, puisque on n'a pas attendu le Covid pour que les femmes aient ce tiraillement entre leur vie professionnelle et personnelle. Disons que le Covid, ça a été encore plus fort, hein, avec l'école à la maison, la surcharge domestique, etc. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes? Quelle invitation t'as envie de leur t'aurais envie de transmettre?
Pour moi, c'est oser vous découvrir, vous connaître, et oser, alors je ne vais pas dire déployer toutes vos facettes, mais oser, parce que sinon je fais un peu une copie de...
Ouais, mais tu peux.
oser libérer votre potentiel, oser se libérer soi-même. Découvrir toutes ces facettes et oser les vivre, parce que la vie passe vite en fait.
Ouais, donc tu dis au-delà de ce qui peut bien se passer à l'extérieur et de ces crises successives, puisque bon bah voilà, là il y a aussi le conflit en Ukraine, un nouveau virus du singe qui est arrivé, donc tu dirais voilà, libérer votre potentiel, oser, ayez de l'audace. Au-delà du contexte extérieur, c'est une invitation à y aller, quoi.
Oui, à y aller, et en même temps en se protégeant justement de toutes ces agressions extérieures. Moi, en tant que, alors, je ne sais pas si c'est sur ma facette HPI ou ma facette hypersensible, tout ce qui est conflit, virus, tout ça, ça m'atteint beaucoup. Donc, j'ai choisi de ne pas. Alors, déjà, je n'ai pas de télé depuis des années. Je regarde jamais les informations. J'écoute un peu des informations succinctes, voilà, à la radio le matin.
C'est ça.
Je ne vais pas m'informer sur toutes les misères du monde.
Oui.
J'essaye plutôt de me connecter à la nature, à ce qui va bien, à des réussites. Voilà.
Et ce qui n'est pas se voiler la face, tu sais très bien ce qui se passe, et moi je fais
Oui.
comme toi depuis quelques années aussi, ça n'empêche pas de savoir très bien ce qui se passe, parce que de toute façon, on sait,
On regarde
voilà,
les
il
autres.
suffit de scroller 2 minutes et on sait ce qui se passe, mais ne pas nécessairement plonger dans la piscine de piranhas. On sait qu'il y a des piranhas, on n'est pas obligé de plonger dedans. Ouais.
Leur file du pain pour qu'ils s'occupent entre eux
Voilà, ouais.
et puis je vaque à mes occupations.
J'aime beaucoup cette idée de protection, audace et protection. Je donne souvent l'exemple du saut en parachute. Hein. On peut se donner cet objectif-là d'adrénaline, avoir envie de faire ce grand saut, quoi. Et pour autant, on ne sautera pas de l'avion sans avoir son équipement, sans avoir vérifié que la manette fonctionne et éventuellement sans avoir quelqu'un en binôme pour nous accompagner si c'est tout nouveau et qu'on n'a jamais fait, quoi.
Ouais. Dans une bonne
Et
préparation, en fait, c'est la
dans une bonne
préparation.
préparation. Et donc voilà, et je trouve que c'est. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les paradoxes. Je travaille beaucoup là-dessus avec les femmes de l'école des femmes inspirantes. C'est que c'est les deux en même temps, en fait. Hein. C'est l'audace et la sécurisation, la protection, comme tu l'as dit. C'est quelque chose qu'on dit souvent en coaching, hein, protection, autorisation. Donc voilà, bah, formidable, formidable. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot pour la fin, pour clôturer?
Oser être soi et se faire accompagner. Je pense que ça, c'est important.
Ouais.
Se faire accompagner par des professionnels et par des personnes inspirantes, par un environnement bienveillant.
Et on est toutes les deux passées par là, donc c'est. Qu'est-ce que tu disais?
et virer les personnes
Ouais.
qui nous bouffent de l'énergie,
Qui
qui sont
ouais.
toxiques.
C'est sortir du panier de crabe, hein, qui vient s'accrocher à nous pour nous empêcher de sortir. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, et tu dis ça en connaissance de cause. Hein, quand on vous dit ça, évidemment, on est accompagnantes toutes les deux. Vous pourriez penser, ah bah oui, ça y est, elles nous disent de venir les rejoindre, etc. Et en fait, bon, c'est vrai, rejoignez-nous, venez, voilà, envolez-vous, envolez-vous, l'école des femmes inspirantes, voilà, prenez contact avec nous, évidemment, mais aussi parce qu'on a fait ce chemin-là très profond chacune, on s'est beaucoup formé et tout ça, c'est un chemin dans lequel on a tellement appris, tellement grandi, on s'est tellement transformé et ça nous a tellement ouvert de portes que évidemment, on a envie que ce soit possible pour d'autres. Et je crois que c'est ça aussi le rôle d'accompagnant, c'est qu'en général, voilà, quand on est accompagnant, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on a soi-même eu besoin de faire un certain chemin et qu'après, on a envie de transmettre, tout simplement. Ouais.
C'est ça, c'est
Voilà.
exactement ça.
Génial. Bah, écoute, merci Laurence d'avoir passé ce bout de matinée avec moi aujourd'hui. Voilà, vous aurez la possibilité d'entendre et de réentendre Laurence sur les plateformes de podcast et puis sur la chaîne YouTube Ida Génari et Chérie. Et bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Belle journée à toi.
Merci, belle journée à toi aussi.
À toutes,
Et à
prenez
bientôt.
soin de vous. Et révéler toutes vos facettes. À très bientôt.